VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 7 octobre 2016, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Niger, au moins 22 morts dans l'attaque d'un camp de réfugiés par des assaillants dans la région de Tawa.
En Guinée, le dialogue politique national a décidé l'organisation des élections communales et communautaires en février 2017.
Inquiétude aux États-Unis à l'arrivée de l'ouragan Matthew, qui a déjà fait plusieurs centaines de morts dans les Caraïbes.
Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui sur la grave situation dans les quartiers tenus par les rebelles à Alep, en Syrie.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Niger, attaque du camp de réfugiés de Tizalit dans la région de Tawa par des assaillants hier. Écoutons le Premier ministre du Niger, Brigui Raffini, après cette attaque.
Les pertes en vie humaine que nous avons enregistrées suite à l'attaque qui a été menée dans une zone de Tassara qui s'appelle Tizalit. Donc c'est un camp de réfugiés. Je crois qu'ils ont profité pour surprendre nos éléments. Et malheureusement, nous avons eu beaucoup de morts. Évidemment, les bilans, pour le moment, on nous a annoncé 22. Mais nous ne sommes pas encore très sûrs que ça ne passe pas cela. Donc c'est vraiment une grosse perte au niveau de nos éléments des forces de défense et de sécurité. Donc prions pour leur mémoire.
Le Premier ministre Brigui Raffini, le bilan provisoire est donc de 22 morts. Selon une source locale contactée par notre correspondant Abdulrazak Idrissa, il s'établit ainsi 5 gendarmes, dont un sous-officier, 14 membres de la garde nationale et 3 militaires du renseignement. En outre, 2 véhicules et une moto auraient été emportés dans cette attaque.
En Guinée, le dialogue politique national a décidé hier, par consensus, l'organisation des élections communales et communautaires en février 2017. C'est ce qu'a appris l'AFP auprès de participants. Le dialogue politique national lancé le 22 septembre réunit le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Les dernières élections locales en Guinée se sont tenues en 2005.
Et Guinée toujours, les gendarmes ont dispersé hier des manifestations violentes à Gekedou dans le sud du pays. Des jeunes protestaient contre les nombreux vols de motos. Éric Manirakiza.
Les gendarmes ont usé de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui ont incendié des véhicules. Ils exigeaient que leur soient livrés 3 voleurs présumés qui étaient détenus par la police. Pour leur éviter la vindicte populaire, les gendarmes ont été obligés de les extraire du commissariat où ils étaient retenus pour les amener dans un camp militaire. D'après le lieutenant Mamadi Mansaré de la gendarmerie, la ville était en ébullition avec des milliers de jeunes qui ont tout saccagé sur leur passage. Depuis 6 mois environ, des vols d'engins à 2 roues sont fréquents dans la ville. Les motos, dont plusieurs sont utilisées comme des taxis, assurent l'essentiel des déplacements dans cette partie de la Guinée.
Pour revenir au Niger, Niamey et l'ONU ont lancé une importante campagne de vulgarisation des moyens contraceptifs pour tenter de réduire la très forte démographie de ce pays parmi les plus pauvres du monde. Le point avec Nanit Talani.
La planification familiale, un moyen d'espacement des grossesses et d'épanouissement de la famille, tel est le slogan de la campagne qui va durer 3 mois selon les organisateurs. Équipe mobile, affiches, prospectus, meeting, crieurs publics, émissions radio, distribution gratuite, tout sera organisé pour la réussite de cette opération dont le coup d'envoi a été donné en début de semaine à Niamey par Kala Moutari, le ministre nigérien de la Santé. Mais sur le terrain, les défis restent de taille. Ce n'est pas la première fois que le Niger tente de réduire son taux de natalité. Depuis les années 80, ce pays a investi des sommes colossales dans les programmes de planning familial. Sans grand succès, ils se sont heurtés aux réticences des islamistes radicaux qui y voient des moyens dictés par l'Occident visant à stopper les naissances. Et puis, la peur des effets secondaires et l'infertilité découragent des femmes à utiliser les contraceptifs, selon le ministère de la Santé. De plus, en zone rurale, qui abrite 80% des Nigériens, avoir beaucoup d'enfants est toujours perçu comme une source intarissable de main-d'œuvre pour exploiter des terres de plus en plus conquises par le désert.
Ailleurs en Afrique, le chef de l'opposition zambienne a été inculpé hier d'incitation à l'insurrection et d'organisation d'un rassemblement illégal. Mais il a été libéré sous caution après avoir passé une nuit en prison. Des détails avec John Lyndon.
Hakainde Hichilema, candidat malheureux à l'élection présidentielle en Zambie et le numéro 2 de son parti Geoffrey Mumba, avait été arrêté mercredi puis placé en détention à la prison de Luansia dans la région minière de la Copper Belt. Les deux hommes sont accusés d'incitation à l'insurrection et d'avoir organisé un rassemblement interdit le 26 septembre en Bangui. Ils ont comparu hier et ont été libérés sous caution. Tous deux ont plaidé non coupables, a affirmé leur avocat Jack Mwambu. Dans un communiqué, son parti a précisé qu'ils ont été remis en liberté contre le paiement d'une caution de 2200 euros. Leur procès doit se tenir le 19 octobre. S'ils sont reconnus coupables, il risque jusqu'à 7 ans de prison. Hier matin, sur son compte Facebook, Hakainde Hichilema a dénoncé ses conditions de détention, affirmant avoir été privé de nourriture, d'eau et de couverture.
Les Marocains se rendent aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés. Dans ce scrutin, les islamistes qui sont à la tête du gouvernement de coalition depuis 5 ans tenteront de conserver la majorité face aux modernistes. Ces législatives s'annoncent comme un face-à-face serré entre le parti Authenticité et Modernité, formation libérale fondée par un proche conseiller du roi Mohamed VI, et les islamistes du parti Justice et Développement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Floride fait face aujourd'hui à l'ouragan le plus menaçant de son histoire récente avec l'arrivée de Matthew et de ses vents soufflant jusqu'à 210 km/h et qui risquent de détruire les zones côtières et ont poussé les autorités à prendre les plus grandes précautions, Jean-Roger Bion.
Matthew, qui se trouvait à 170 km au sud-est de Cap Canaveral, selon le dernier bulletin du Centre américain de surveillance des ouragans, NHC, à 4 GMT, a déjà provoqué des destructions, monstre dans le pays le plus pauvre de la Caraïbe, Haïti. L'ouragan est classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5. C'est le plus puissant ouragan touchant cette zone depuis des décennies, selon le NHC. Il y a un risque d'inondation meurtrière en Floride. Georgie et Caroline du Sud a mis en garde le NHC. Dans ces trois États, le président Obama a déclenché un plan d'urgence fédéral permettant de mobiliser davantage de ressources. L'ouragan qui se déplace à 20 km/h s'éloigne des Bahamas et devrait passer près ou au-dessus de la côte est de la péninsule de la Floride dans la nuit de jeudi à vendredi. La puissante dépression a fait plus de 300 morts dans le département sud d'Haïti, a indiqué jeudi à l'AFP son sénateur Hervé Fourcan.
États-Unis toujours, l'Américain d'origine somalienne qui a blessé 10 personnes dans un centre commercial du Minnesota à la mi-septembre avant d'être abattu, était radicalisé. Ses actions ont correspondu aux philosophies violentes des groupes islamistes, a déclaré un agent du FBI. Peu après le drame, le groupe djihadiste État islamique avait revendiqué cette action.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence aujourd'hui à la demande de la Russie. Il doit entendre un compte-rendu de l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, sur la grave situation qui règne à Alep Est. Monsieur de Mistura a déclaré hier que les quartiers de l'Est d'Alep tenus par les rebelles pourraient être totalement détruits d'ici la fin de l'année si le régime syrien et la Russie poursuivaient leur offensive militaire. Il a lancé un appel aux combattants de l'organisation djihadiste Front Fateh al-Cham, anciennement Front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, pour qu'ils quittent l'Est d'Alep.
Les Nations Unies toujours. Le Portugais Antonio Guterres a fait un pas décisif hier vers le poste de secrétaire général de l'ONU avant un dernier vote la semaine prochaine qui devrait le porter à la tête de l'organisation internationale. Lors d'une réunion à huis clos, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la motion qui recommande l'ancien Premier ministre du Portugal pour un mandat de 5 ans, un vote suivi d'applaudissements selon des diplomates présents. Sa désignation comme 9e secrétaire général doit encore être approuvée par l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui devrait être une formalité. Il prendrait ses fonctions le 1er janvier prochain pour succéder au Sud-Coréen Ban Ki-moon. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
Les bonnes récoltes attendues pour le blé et le riz devraient contribuer à de nouveaux records à la baisse pour les prix de ces céréales de base. La production mondiale des céréales devrait atteindre cette année quelque 2569 milliards de tonnes, soit une hausse de 1,5% par rapport à l'année précédente. Un peu plus de 44 milliards de francs CFA, c'est le montant à titre de pénalité que le consortium composé des grandes entreprises pétrolières telles que Petronas ou encore Chevron devra payer à l'État tchadien. Ces compagnies et bien d'autres sont condamnées pour taxes non payées. Le Tchad, 12 millions d'habitants, a commencé l'exploitation du pétrole en 2003. Après 4 ans de travaux, l'Éthiopie a inauguré une ligne ferroviaire de 750 km entre Addis Abeba et Djibouti. Financée et construite par la Chine, elle a pour ambition de désenclaver l'économie éthiopienne et de doper les échanges avec Djibouti. Et puis au Burkina Faso, 5 milliards de francs CFA, c'est le montant de la somme que l'Autorité de régulation des télécommunications électroniques et des postes vient d'infliger à l'Office national des télécommunications. Onatel se voit infliger cette amende pour dysfonctionnement de son réseau.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
En RDC, Mbokani est de retour au sein des Léopards.
Oui, l'attaquant congolais de Hull City en première ligue anglaise a accepté de jouer à nouveau pour l'équipe nationale congolaise après avoir annoncé début avril qu'il mettait fin à sa carrière internationale. Dieu merci, Mbokani montera donc sur la pelouse ce samedi lors du match RDC-Libye, comptant pour la première journée du dernier tour des éliminatoires Zone Afrique du Mondial Russie 2018. On écoute Dieu merci Mbokani.
Bon, c'est par rapport aussi au peuple congolais. Je réfléchis avec ma famille, c'est pour ça que je dis je ne vais pas laisser le peuple congolais comme ça. Il faut que je revienne pour mon pays.
Quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu peux dire au peuple congolais justement?
Bon, je le dis seulement pour les matchs de dimanche. On va gagner sur la victoire seulement. Non, c'est ça.
Dieu revient et s'investit à 100% pour l'équipe.
Oui, je suis à 100% pour le match de dimanche, tu vois, et pour le match de samedi. Tu vois, même à l'entraînement, je travaille bien. Je suis sûr qu'on va gagner pour samedi.
Voilà, c'était Dieu merci Mbokani au micro de nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Coupe du Monde 2018, la phase de groupe des éliminatoires africaines démarre ce vendredi.
Oui, avec ce soir à 15h30, à Tamale au Ghana, les Black Stars affrontent l'Ouganda pour le premier match du groupe E. Dans le même groupe, le Congo-Brazzaville affronte l'Égypte dimanche. Dans le groupe A, samedi, la RD Congo, avec Dieu merci Mbokani dont on parlait justement, reçoit la Libye au complexe Omnisport des Martyrs de Kinshasa. Et dimanche, la Tunisie reçoit la Guinée dans le groupe A. Et dans le groupe B, les Chipolo Polo de Zambie reçoivent au stade Levi Mwanawasa les Super Eagles du Nigeria, tandis que les Fennec d'Algérie vont en découdre avec les Lions Indomptables du Cameroun dans l'ambiance du Mustapha Tchaker de Blida. Et dans le groupe C, samedi à Libreville, choc entre le Gabon et les Lions du Maroc. Un autre match à surveiller de près, celui entre voisins ouest-africains, les Aigles du Mali qui seront à Boaké pour défier les éléphants de Côte d'Ivoire, toujours ce samedi. Et dans le groupe D, toujours samedi au stade du 4 août de Ouagadougou, les étalons reçoivent les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, tandis que les Lions du Sénégal accueillent Idrissa chez vous là-bas à Dakar, le Cap Vert.
Cuba, États-Unis, des retrouvailles amicales et historiques en football.
Oui, c'est le dernier geste de rapprochement en date entre les deux ex-ennemis de la guerre froide. Ce soir à 16h, 20h, temps universel, la sélection américaine de Jürgen Klinsmann ira défier les Cubains lors du tout premier match amical disputé entre les deux pays depuis 1947, date de la dernière victoire des Cubains face aux Américains.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des hommes armés non identifiés ont attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi le village de Kigalama, situé à plus de 200 kilomètres de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Rapportent des témoins et les autorités locales. Les assaillants ont pillé le village, incendié des maisons et violé des femmes, selon les habitants du village. Précision de notre correspondant sur place, Ernest Muhero.
Les habitants du village Kigalama, groupement des Bizalougoulou en chefferie des Basile, territoire de Mwenga, viennent d'être victimes des attaques armées des groupes assimilés au Mai Mai la nuit du 5 octobre. Kigalama est à plus de 200 km de Bukavu. Selon des témoignages concordants, ces bandes armées opérant avec armes à feu et armes blanches ont attaqué une trentaine de maisons pendant environ 5 heures de temps en rançonnant les familles à leur merci. Un témoin de cette attaque qui a requis l'anonymat explique.
Les civils sont venus à Kigalama à 23h. Ils sont opérés jusqu'à 4h du matin de ce mercredi. Ils étaient nombreux, je ne peux pas connaître leur nombre, mais les uns parlent les Kinega et d'autres parlent les Lingala. Certains d'entre eux qui possédaient les machettes et d'autres les armes à feu. Ils ont pillé plusieurs maisons. Arrivés là où nous étions, ils nous ont torturés physiquement en demandant une somme de 500 000 francs. Ils sont partis avec tout ce que nous possédons, une somme de 280 000 francs.
Et ils ont attaqué à peu près combien de maisons?
En trois maisons, on a activé une maison du commerçant et une maison des évolués du village. Ils ont incendié des maisons.
Chose grave, notre source et d'autres habitants de Kigalama contactés confirment que trois femmes ont été violées par les assaillants pendant cette incursion.
Ils ont violé trois femmes. Il y avait une et une autre. On l'avait transportée dans la forêt. Elle est venue nous informer qu'elle était violée. Et l'autre, on l'avait amenée dans une maison et on avait commencé à la violer. Nous, nous étions les dehors et nous entendions seulement les cris de ces dames qui criaient « Minakoufane, ou Bananivaka ». Les soldats, ils étaient à peu près à 10 km de Kigalama. Ils sont venus en retard. Les scientifiques sont partis à 4h du matin et ils sont arrivés à 6h. Nous lançons un cri d'alarme à toutes les autorités politico-administratives de sécuriser cet endroit.
L'autorité coutumière de la chefferie de Basile, le Mwami Kalenga Riziki, confirme l'information et condamne ces actes, particulièrement les viols de ces femmes, dont l'une vient fraîchement de la maternité. Mwami Kalenga Riziki.
Il y a eu une incursion des Maï Maï dans le village Kigalama. Plus grave encore, ces Maï Maï se sont évertués à violer des femmes, dont l'une d'elles venait d'accoucher il y a des mois. C'est donc nous condamnons fermement, nous lançons en tout cas un OSS aux structures sanitaires à pouvoir s'occuper de ces femmes qui sont délaissées à leur triste sort. Nous attendons à ce que des coupables ou des présumés coupables ont été attrapés, déférés devant la justice et condamnés conformément à notre législation.
Le Mwami Kalenga invite l'État congolais à prendre ses responsabilités et déplore que dans cette partie du territoire national, la population est abandonnée à son triste sort.
Il n'y a pas des mois, nous étions dans une tournée d'itinérance dans notre chefferie. Parmi les constats, nous avons relevé qu'il y a pratiquement l'absence des policiers qui devraient encadrer la population dans plusieurs villages. Autrement dit, il y a l'absence totale de l'État. L'État doit prendre ses responsabilités en sécurisant ma population de la chefferie des Basile.
Signalons que ce village de Kigalama est situé à une cinquantaine de kilomètres de la cité de Kamituga, avec une population estimée entre 300 à 500 habitants. Ernest Mouero Bukavu, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Cameroun, au moins 500 enseignants n'ont pas rejoint leur poste dans le nord du pays à cause de leur crainte pour leur propre sécurité. Autrement dit, Boko Haram. Reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Maroua, rendu par John Linden.
Des élèves apprennent à chanter l'hymne national du Cameroun à l'école primaire de Kousséri, dans l'extrême nord, près de la frontière avec le Tchad et le Nigeria. Deux enseignants sont sur place et trois ne sont pas revenus alors que l'école a rouvert ses portes il y a un mois. Kinda Songwe s'explique.
It's like a vocation.
Enseigner, c'est une vocation, c'est comme un instinct. Lorsque j'étais petite, j'aimais à jouer à la maîtresse. J'ai grandi ainsi et finalement décidé de réaliser mes rêves. J'ai toujours eu de l'admiration pour les maîtres d'école et ma mère enseigne à la maternelle.
Le groupe Boko Haram a ciblé les écoles depuis le début de son insurrection en 2009. L'école de Tourou a été incendiée il y a 2 ans, avec plusieurs enfants tués ou blessés. Le gouvernement a rouvert les classes, mais seuls 2 enseignants sur 8 sont revenus. Nguenan Timothy se souvient de cette attaque. Lorsqu'ils sont venus ce jour-là, nous étions apeurés, nous avons fui. Maintenant, je pense que le gouvernement a pris de sérieuses mesures pour sécuriser l'école et nous permettre de faire notre travail. Cependant, beaucoup d'enseignants ont toujours peur de revenir. Bayama Kalin estime que le gouvernement devrait augmenter la prime de risque.
Vous ne pouvez pas avoir des enseignants qui ont des multiples revendications et pour lesquelles leurs employeurs ne réagissent pas même à moitié. C'est pas motivant, c'est pas du tout motivant.
Mais pour Tassan Wilfried de l'Association des enseignants du Cameroun, ce sont les enfants qui payent le prix. Nous lançons un appel aux enseignants pour qu'ils mettent toute leur énergie à l'éducation des enfants malgré les conditions difficiles de travail. Nous voyons la situation critique des enfants et leur avenir paraît sombre. De son côté, le général Jacob Kodji, commandant des troupes camerounaises, s'est voulu rassurant.
En liaison avec les autorités administratives et les responsables des enseignements de base secondaire, nous gardons un contact permanent pour voir comment pallier toutes sortes de désagréments possibles. Enfin, nous demandons les populations, les élèves, les parents et les enseignants d'être en étroite coordination et collaboration avec toutes les forces de maintien de l'ordre pour apporter tous les renseignements, les informations qui sont à leur portée afin d'assurer leur sécurité.
Midji Yawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, a lancé un appel pour que les enseignants reprennent le travail. Près de 100 000 enfants déplacés n'ont déjà pas accès à l'école et avec le manque d'enseignants, 100 000 enfants supplémentaires sont en péril.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le leader de l'opposition cambodgienne a visité hier nos studios ici à Washington. Sam Rangsi, après la levée de son immunité parlementaire, a été jugé par contumace et il vit en exil en France. Le sort de l'opposant est similaire à celui de beaucoup d'opposants dans plusieurs pays africains. Au micro d'Idriss Fall, Sam Rangsi.
Je suis temporairement en France. J'ai été contraint à l'exil pour échapper à la prison et pour garder une marge de manœuvre pour lutter pacifiquement pour libérer mon pays d'un régime très autoritaire. Nos dirigeants actuels sont d'anciens Khmer Rouge, c'est tout dire. Ils ont gardé cette mentalité de violence, ce désir de supprimer toute opposition par tous les moyens. Donc l'opposition démocratique est quand même née grâce à la communauté internationale qui a fait pression sur la base des accords de Paris sur le Cambodge, signés en 1991, et qui oblige le Cambodge à suivre la voie d'une démocratisation progressive. Donc c'est cette démocratisation qui a déraillé.
En tant que Cambodgien vivant en France, forcément vous suivez ce qui se passe en Afrique.
Oui, avec grand intérêt, parce qu'il y a beaucoup de similarités entre le Cambodge et le continent africain. Beaucoup de pays africains sont en butte aux mêmes problèmes que le Cambodge. Au Gabon notamment, je sais qu'au Congo, RDC aussi, il y a des problèmes similaires.
Quelle solution donc? Est-ce qu'il faut rester opposant à l'étranger ou bien comment est-ce qu'il faut faire?
Il y a beaucoup de dirigeants africains qui ont vécu en exil, qui ont attendu leur heure, à Paris notamment. Et finalement, les problèmes se sont résolus, même s'il y a d'autres problèmes qui ont surgi. Mais je pense qu'il faut mettre un terme à cette culture de l'apparence. On a souvent une façade de démocratie, mais pas de véritable démocratie.
Le Cambodge était une ancienne colonie française. C'est il y a très très longtemps. 91, vous en parlez aussi, c'était le tournant de la politique française en perte ses anciennes colonies. Et depuis, est-ce que vous pensez que par exemple la démocratie peut prendre pied?
Certainement, parce que le monde a changé. Les peuples ont changé dans leur aspiration à la liberté. Ils sont maintenant plus éduqués, mieux informés, plus exigeants, surtout parmi la jeunesse. Et grâce aux moyens de communication modernes, Internet, Facebook, etc. Donc la probabilité que nos pays qui vivent sous une dictature parviennent à une libéralisation, cette chance est plus forte que jamais maintenant.
Sam Rangsi, leader de l'opposition cambodgienne. Présidentielle américaine 2016, la météo s'en mêle, entraînant l'annulation d'activités prévues en Floride. Les deux principaux candidats continuent de se préparer au Forum citoyen de dimanche, leur deuxième et avant-dernier face-à-face avant le scrutin du 8 novembre. Le point, Timothée Donangmaï.
Le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton avaient prévu d'intensifier leurs efforts en Floride, question de ratisser large pour rallier à leur cause les indécis dans cet état clé de la présidentielle. Ils ont dû y renoncer à cause du puissant ouragan Matthew. L'équipe Clinton a fermé ses bureaux de campagne sur la côte et évacué ses volontaires vers l'intérieur de la Floride. Le camp Trump a annulé un meeting en Caroline du Nord, plus au nord, et un autre événement en Floride auquel devait prendre part sa fille Ivanka Trump. Les deux principaux candidats à la présidentielle américaine 2016 ont, selon l'agence Associated Press, appelé les habitants de la Floride à la prudence. Dans un message sur Twitter mercredi, Donald Trump a dit « prier pour tout le monde ». S'exprimant également sur Twitter jeudi, Hillary Clinton a exhorté les habitants de la Floride à se préparer à l'ouragan, mais à évacuer la zone si les autorités en donnent l'ordre.
Tim, l'ouragan Matthew cause des soucis aux candidats comme aux responsables électoraux.
Cette catastrophe arrive à quelques jours du 11 octobre, date limite d'enregistrement des électeurs de Floride. L'équipe d'Hillary Clinton a appelé à la prolongation du délai accordé à ses électeurs. Par ailleurs, les bulletins de vote sont en train d'être envoyés cette semaine dans cet État pour le vote par anticipation. Selon Associated Press, ils sont déjà quelque 2,5 millions d'électeurs à en avoir fait la demande en Floride, soit près d'un tiers de la totalité des Américains ayant voté dans cet État aux élections de 2012. Nul doute que l'ouragan perturbera l'acheminement du courrier et donc des suffrages exprimés par voie postale. Matthew pourrait aussi créer des conditions dangereuses dans les États de Géorgie et des deux Carolines. En attendant qu'il passe, Donald Trump et Hillary Clinton continuent de se préparer au Forum citoyen de dimanche dans l'État du Missouri. Contrairement au premier débat où les deux candidats ont répondu aux questions d'un journaliste, ils devront dimanche répondre aux questions des électeurs et se déplacer sur la scène pour le faire. Leurs gestes seront donc observés de près. Mis en difficulté au premier débat, le républicain Donald Trump espère se racheter dimanche, mais devra se garder d'être trop brusque avec les intervenants. Selon les analystes, le candidat républicain a l'habitude des grandes foules et pourrait éprouver quelques difficultés, contrairement à sa rivale démocrate.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.